Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La crise sanitaire est quasi planétaire et ne facilite pas le travail des artistes. Beaucoup regrettent les nombreux concerts, expositions et autres exhibitions ajournées quand ils ne sont pas simplement supprimés. La plasticienne marocaine Rizlen Sali est depuis quelques jours en résidence à la Cité des Arts à Paris, après avoir été confinée au Maroc. Elle s'interroge sur le sens de son engagement artistique, sur l'utilité de son art, mais aussi sur la liberté d'expression, mise à mal en ces temps de contestation populaire et populiste dans certains pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Un entretien réalisé par Mathias Golshani, à retrouver sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio, et n'hésitez pas à nous noter. Bonjour Ghislaine Sali.
Bonjour Éric Bataillon.
Artiste marocaine, votre espace de création est installé à Marrakech, où vous vivez. Alors avant de parler de votre travail et de votre actualité artistique, qui est assez importante, rappelons que vous avez signé l'an dernier un manifeste contre la criminalisation des relations sexuelles hors mariage et de l'avortement, et dénoncé spécifiquement l'article 490 du code pénal marocain. Ce manifeste avait été lancé par les romancières Leïla Slimani et Sonia Terab. Cette pétition a-t-elle eu les effets escomptés pour vous ?
En tout cas, ça m'a permis à moi personnellement de mettre des mots sur ce sujet, d'en parler avec mes filles, à qui j'ai fait écouter l'interview que j'ai eue avec vous, et d'y réfléchir. Et je pense que on a posé au moins le sujet sur la table, et ça c'est très important, déjà pour entamer un débat et aller de l'avant.
Justement, est-ce que ce débat a démarré ou est-ce que ça s'est arrêté notamment à cause de la pandémie ?
Bon, c'est sûr que on s'est tous concentrés sur autre chose à un moment donné. La pandémie était tellement un événement extraordinaire, exceptionnel. Mais au moment de la signature, c'est un sujet qui était très très présent au Maroc. On en discutait beaucoup, peut-être plus dans certaines sphères que dans d'autres. Mais oui, c'était... Et puis, il y a eu la libération de la journaliste qui s'est fait assez rapidement. Donc, c'était un peu comme un gain de cause, on va dire. Mais on est loin d'avoir réglé la situation. On a juste posé... Voilà, le débat.
Et aujourd'hui, voyez-vous des choses qui changent justement dans ce domaine-là au Maroc, dans la façon dont les autorités et un certain nombre de secteurs voient l'évolution de la société dans ce domaine-là ?
Alors, vous savez, cette pandémie, pour moi, pas seulement au Maroc, mais dans le monde entier, elle porte tellement atteinte à la liberté des uns et des autres. Et j'ai vraiment le sentiment, moi je me suis sentie étouffée vraiment à plusieurs reprises. L'article 490 au Maroc, forcément, est aussi un sujet qu'on ne libéralise pas dans cette situation. Donc.
Et vous aujourd'hui, vous êtes impactée par ces contraintes sanitaires. Vous l'avez été pendant le confinement, puisque au Maroc, le confinement a été très strict.
Ouais, ouais.
Mais aujourd'hui encore, la pandémie vous empêche de faire un certain nombre de choses dans votre travail d'artiste.
Alors, je l'ai pris différemment. Moi, je suis ici en ce moment à la Cité internationale des arts à Paris en résidence pour 3 mois. Pour moi, cette résidence, c'était surtout un lieu de rencontre, de partage, d'échange. C'était surtout ça. Et là, quand au bout d'une semaine, on annonce ce couvre-feu, déjà le terme couvre-feu, je trouve ça inadmissible. On est à la guerre, voilà. Au début, ça m'a vraiment perturbée. Mais là, je le prends différemment. C'est peut-être un challenge, un défi, surtout en tant qu'artiste. C'est vraiment un espace dans lequel on peut être encore plus créatif parce que on a des restrictions qui nous poussent à nous exprimer encore plus que d'habitude. Donc, c'est aussi quelque part un plus, surtout que je suis dans une période de réflexion, en fait, en étant dans cette résidence.
Ça vous pousse à être face à vous-même plus souvent ?
Déjà, le fait de venir dans cette résidence, j'ai beaucoup produit ces dernières années et j'avais toujours des deadlines parce que j'avais une exposition, je devais livrer des choses à gauche, à droite, sans arrêt en fait, je suis très active. Et du coup, je n'ai pas de période de pause où je réfléchis et là... Pour moi, c'est tout à fait ça. J'ai eu une réunion avec la directrice de la Cité internationale il y a une semaine. En fait, c'est extraordinaire comme résidence parce que, en fait, on n'est même pas obligé, finalement, dans le fond, de produire et de présenter un projet. Alors moi, je suis arrivée, je n'avais pas grand-chose à lui dire. J'ai dit, écoutez, voilà, moi, j'ai beaucoup produit ces derniers temps. Et pour tout vous dire, je prends cette résidence comme une retraite. Le projet, c'est moi. Je lui ai dit, le projet, c'est moi. Et j'ai envie de réfléchir sur moi, sur ma vie. J'ai envie que ce soit quelque chose de complètement introspectif, une recherche, voilà, de ce dont j'ai envie. En plus, je trouve que la période s'y prête vraiment parce qu'on a vraiment tous cette sensation de la fin d'un monde et du début d'un autre. Enfin, on espère vite que le début va arriver très vite. Mais on a tous en ce moment ce sentiment de changement d'air. Sa réaction m'a vraiment bouleversée parce que moi, j'étais là un peu gênée aussi en disant « Je ne sais pas exactement vraiment ce que je vais produire. » Et je lui ai dit donc, du coup, j'ai réfléchi à un journal intime juste pour dire mes moods du moment. Ça peut être un dessin, ça peut être une peinture, une broderie. Bon, moi, je brode beaucoup. Et une écriture, un texte. Et elle m'a posé une question qui m'a bouleversée, qui m'a fait réfléchir et elle m'a dit « Mais est-ce que vous avez l'intention de montrer le travail qui sortira de cette résidence ?» Bien sûr, moi, en tant qu'artiste, m'exposer, le regard des autres, le jugement, c'est important parce que c'est ce qui me fait grandir, ce qui me fait avancer, qui me nourrit. Le fait qu'elle me pose cette question m'a vraiment interrogée et je lui ai dit « Mais c'est extraordinaire que vous me posiez ça, du coup... » Ça me dit que je dois être d'une sincérité, même si je livre vraiment mon intimité, il faut que je sois d'une sincérité absolue. Et je pense que la pandémie est importante, quoi, par rapport à ça.
Alors justement, quel regard portez-vous sur votre rôle en tant qu'artiste ? Pour le chanteur libanais Wael Koudé, l'art n'est pas forcément utile, il est pourtant absolument nécessaire. Êtes-vous d'accord avec lui ?
Oui, je suis totalement d'accord parce que quand on s'est tous retrouvés enfermés chez nous pendant des mois, notre seule évasion, c'était l'art. C'était soit la musique qui était très importante, soit des films, des vidéos, des livres. Et ça, c'était essentiel pour chacun comme moyen de s'évader. Et puis, c'est aussi ce qui nous permet de réfléchir, dans le fond, parce que souvent, un artiste, il pose des questions, on va dire. Il donne pas de réponse, mais il interpelle en parlant d'un sujet qui peut parfois être tabou ou difficilement abordable dans la vie quotidienne. Et alors, l'artiste met une œuvre sur ce sujet-là qui permet à chacun de s'interroger et de réfléchir sur la question. Et je pense que c'est quand même fondamental, c'est bien sûr, c'est très important. Donc je pense que oui, l'art est très important en fait pour réfléchir surtout et avancer. Ouais. Écoutez Orient Hebdo sur RFI avec Éric Bataillon.
Et avec notre invitée ce dimanche, l'artiste plasticienne marocaine Rizlane Sali. Rizlane Sali, la situation sanitaire ne vous empêche pas d'avoir une activité artistique fournie. Ainsi, exposez-vous en ce moment à la Loft Art Gallery à Casablanca, au Maroc, dans une exposition qui s'intitule « Un jardin en soi ». Avec qui exposez-vous et y a-t-il un jeu de mots sur le mot « soie » qui est aussi une matière que vous travaillez ?
Oui, alors j'expose avec deux autres grandes artistes que vraiment j'admire. Amina Ghesnaï, qui est une artiste marocaine, qui est architecte de formation comme moi et qui travaille avec des femmes artisanes qu'elle va vraiment rechercher au fin fond de toutes les régions isolées du Maroc. Et c'est juste merveilleux le travail qu'elle fait, les recherches, les matériaux qu'elle utilise. Elle fait souvent des œuvres monumentales. Et elle m'avait dit une fois, le jour où je ferai une œuvre simple, n'est pas encore née, parce qu'elle fait des choses très compliquées, mais vraiment d'une très grande beauté, qui demande beaucoup de temps pour la réalisation. Voilà, donc je suis très très contente d'exposer avec elle et avec Johanna Choumali, qui est une photographe ivoirienne qui a eu le prix Pictet l'année dernière à Londres et qui prend des scènes, je pense, de la vie en Côte d'Ivoire qu'elle brode. Et elle passe aussi beaucoup, beaucoup de temps à broder toutes ses photos. Et puis, il y a moi aussi dans cette expo. Donc, on est trois femmes qui utilisons la broderie comme un vrai moyen d'expression. J'aime vraiment beaucoup cette exposition. Je n'ai vu que des photos parce que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. J'étais déjà ici. C'est une expo qui fait beaucoup parler d'elle.
Casablanca, la Loft Art Gallery, pour ceux qui voudraient s'y rendre.
Oui.
Autre lieu d'exposition, l'Italie. C'est un pays où vous exposez très, très régulièrement.
Oui.
Vous êtes notamment à Trévise, à la Fondation Benetton, et aussi à Milan, pour une exposition qui est sur l'Afrique, c'est cela ?
Oui, alors c'est avec ma galerie milanaise qui s'appelle Primo Marella, et qui est spécialisée surtout dans l'art africain. Ils ont aussi quelques artistes chinois et italiens, mais beaucoup d'artistes africains. Donc c'est une expo qui va commencer là dans une semaine ou deux, qui s'appelle Africa Universe, où il y aura pas mal d'artistes africains. Je pense que je suis la seule femme, mais je suis pas sûre. Il y aura Abdoulaye Konaté, notamment le Malien. Il y aura Vichwa, qui vient de Kinshasa. Et Joël Andriano qui vient de Madagascar. Donc on est 6 ou 7 artistes africains au sein de cette exposition et je pense qu'elle va durer jusqu'en décembre.
Ce qui montre que l'Afrique a un pouvoir de création absolument important et très fort.
Oui.
Il y a beaucoup d'artistes qui émergent.
Oui, c'est-à-dire que beaucoup grâce à la A54, cette foire d'art africain de Touri El Glaoui, l'art africain, est en ce moment en vue, quoi. Et il y a énormément d'artistes, africains qui sont très intéressants, notamment dans ce domaine du textile et du fil. Et puis, moi, je travaille aussi avec des déchets. Il y a beaucoup d'artistes africains qui travaillent avec ce qu'ils trouvent parce que justement en Afrique on n'a pas forcément accès à tous les produits, on va pas chez Cogier Play où on travaille avec ce qu'on a. Quand on a envie de s'exprimer, on s'exprime avec ce qu'on trouve devant soi et puis il y a des choses extrêmement intéressantes qui ressortent de ces artistes-là.
Justement, Ghislaine Sali, vous utilisez des matières recyclables pour vos créations, vous venez de le dire. C'est d'ailleurs un travail que vous menez également avec le collectif Sbel Manifesto, que vous avez fondé avec votre sœur, Katia, et avec l'artiste photographe Otman Zine.
Oui.
Aspirer à un monde meilleur, plus respectueux de l'environnement, c'est aussi une de vos préoccupations ?
Alors, moi, je n'aime pas être extrémiste, en fait, dans tout ce que je fais. Je sais que quand je fais quelque chose, j'adore le faire à fond, mais c'est surtout pour le plaisir de le faire et la satisfaction que j'en retire. Je ne suis pas une militante, on va dire, mais le fait de travailler avec des déchets était pour moi plus de l'ordre spirituel. Pour moi, ça apportait une vraie spiritualité à mon travail parce que j'avais la sensation de transformer une matière qui était un peu le rebut de la société et de la transcender en fait et de lui donner une vie meilleure. Et donc c'est un peu un espoir par rapport à la vie. Vous savez, dans mon travail, c'est une espèce de transe en fait à beaucoup de moments parce que on rentre dans une méditation, il y a souvent des gestes très répétitifs dans toutes les étapes et qui sont dénuées de toute intellectualité en fait. Et donc on répète le même geste, c'est un peu comme un mantra qu'on répète. Souvent je travaille avec des bouteilles ou des bouchons, mais c'est les mêmes objets, des CD, et c'est le même geste que je fais. Et j'ai souvent cette sensation que c'est des objets qui sont passés par ailleurs et qui là aboutissent chez moi. Et donc j'ai le sentiment que quand je fais une œuvre, c'est l'énergie que ces objets ont accumulée de leur ancienne vie qui vont faire l'énergie de l'œuvre en fait. Et puis chacune vient d'un moment donné, d'un lieu donné, d'où je ne sais rien. Et c'est l'accumulation de toutes les énergies, de tous ces éléments qui vont donner à l'œuvre sa propre âme, on va dire, voilà.
Alors vos œuvres, Ghislaine Sali, sont souvent des organes du corps humain et vous réussissez à leur donner un aspect alvéolé à partir de morceaux de bouteilles en plastique, vous venez de le dire, brodés en fil de soie de Sabra.
Oui.
C'est une soie végétale.
Végétale, qu'on utilise au Maroc pour faire les caftans, les djellabas.
Est-ce une métaphore sur ce qui reste de l'individu une fois dépouillé de tout ce qui est superflu?
Alors, je sais pas. Moi, pour tout dire, je me suis intéressée au corps humain parce que c'est le premier vrai grand travail que j'ai fait parce que je voulais vraiment quelque chose d'extrêmement universel. Je ne voulais pas appartenir à une race, à un genre, enfin genre, oui, on peut peut-être deviner que je suis une femme quand on voit mes œuvres, mais je ne voulais pas appartenir à une religion, à une culture, à quelque chose. Et donc, le corps humain, c'est ce que nous avons de plus universel. Et quand je me suis intéressée à ce corps, j'ai trouvé que, enfin, je suis très loin d'être médecin, mais moi, je l'ai regardé d'une manière très esthétique. En fait, j'ai regardé des zooms, des milliers d'images sur Internet, sur différentes parties du corps. Et j'ai trouvé ça d'une telle poésie, d'une grande beauté. Et c'est ça que je voulais transmettre, moi. C'est cette... la beauté de ce corps que nous avons tous et en zoomant sur des parties très spécifiques et c'est l'universalité de ce corps qui m'a parlé.
Toutes les parties du corps sont importantes pour vous, malgré tout.
Oui, toutes les parties du corps et en ce moment où je mène ma retraite introspective entre guillemets à la Cité internationale des arts. En fait, j'ai réfléchi à la question. Je parle aussi beaucoup du corps de la femme parce que je ne peux parler que de ce que je connais. Une femme, son corps subit énormément de transformations tout le long de sa vie. Et justement, pour en revenir à ce manifeste, j'ai vraiment le sentiment qu'une femme ne peut être libre que lorsqu'elle a atteint une liberté sexuelle, en fait, quand elle est maître de son corps, parce que on peut être la plus grande juge, une très grande médecin, on peut avoir fait des études extraordinaires, mais si on n'a pas cette liberté sexuelle, c'est-à-dire si on ne peut pas disposer de son corps comme on l'entend, on n'est pas libre, en fait, parce que la femme, elle est d'abord sous le joug de sa famille, de son père, de son frère. Ensuite, elle passe, quand elle se marie, voilà, c'est encore une autre famille, le mari, la société. Mais finalement, voilà, elle a beau être la personne la plus sophistiquée qui soit, si elle n'a pas cette liberté sexuelle, elle ne dispose pas de son corps comme elle le voudrait, elle n'est pas libre dans le fond. J'ai envie de parler du corps de la femme, de cette liberté en fait. J'ai envie de parler de cette liberté.
Liberté d'expression dans tous les domaines.
Oui, liberté d'expression dans tous les domaines. Je trouve que c'est fondamental d'être libre de dire ce qu'on a envie de dire.
Voilà. Y compris aujourd'hui, lorsque par exemple il y a l'affaire de ce professeur d'histoire en France qui a été décapité parce qu'il avait essayé de faire comprendre à ses élèves ce qu'était la liberté d'expression.
Oui, alors à l'époque de Charlie, je suis Charlie, j'étais profondément Charlie, même si au Maroc c'était pas évident. Moi je suis quand même pour le respect des uns et des autres, je ne suis pas d'accord qu'on fasse des choses uniquement pour choquer. Évidemment je condamne, mais à 10 000%, je trouve ça d'une tristesse, ce professeur qui a voulu, c'est très noble, c'est la plus belle chose qu'on puisse enseigner à la génération future, c'est d'être libre, pour moi c'est essentiel, et qu'il ait fini sa vie de cette manière pour ça, je trouve ça, mais enfin, il n'y a pas de mots, je condamne totalement ce geste. Voltaire a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. » Parce que voilà, on a le droit de ne pas être d'accord avec les gens, mais on respecte ce que eux pensent et voilà, on ne va pas leur imposer notre propre vision et ils ne vont pas nous imposer la leur. Et je pense que c'est essentiel.
Merci Ghislaine Saly.
Merci Eric Bataillon.
Artiste plasticienne marocaine, notre invitée ce dimanche. Orient Hebdo sur RFI, on se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous.